Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les amyloses héréditaires à transthyrétine et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Guilhem Solé. Docteur Solé, bonjour.
Bonjour.
Docteur Solé, vous êtes neurologue, praticien hospitalier au sein du service de neurologie et maladies neuromusculaires du CHU de Bordeaux, où vous êtes également responsable du centre de référence maladies neuromusculaires Atlantique-Occitanie-Caraïbes. Alors, docteur Solé, aujourd'hui, nous abordons les conséquences d'une amylose héréditaire à transthyrétine. Quelles sont les principales atteintes d'organes qui sont observées chez ces patients ?
Alors, je pense que vous avez déjà abordé les atteintes neurologiques, mais très rapidement, pour rappeler, dans le système nerveux périphérique, l'atteinte principale est une neuropathie sensitive qui était classiquement considérée comme douloureuse, même si, clairement, on ne voit pas toujours cela chez la majorité des patients. C'est une neuropathie sensitive qui va aussi s'exprimer sous la forme d'une ataxie proprioceptive le plus fréquemment. On peut avoir aussi des atteintes motrices, des atteintes des membres supérieurs ou d'autres types d'atteintes plus rares. La deuxième caractéristique de cette neuropathie, c'est l'atteinte dysautonomique. L'atteinte dysautonomique va se manifester au niveau de la motricité digestive haute avec une gastroparésie qui va entraîner une dyspepsie et éventuellement des vomissements. Au niveau digestif bas, elle va se manifester par une alternance diarrhée et constipation, et dans les formes plus évoluées, une diarrhée qui peut être profuse et extrêmement gênante. J'ai le souvenir toujours d'une patiente qui n'arrive quasiment plus à faire ses courses à cause des épisodes diarrhéiques qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Cette gastroparésie et cette diarrhée seront responsables d'une dénutrition et d'une perte de poids chez ces patients. L'autre atteinte dysautonomique qu'on observe très fréquemment dans cette pathologie est l'hypotension orthostatique, qui va donc entraîner pour les patients des phénomènes de malaise lorsqu'ils vont changer de position. Ces malaises peuvent être extrêmement invalidants et certains patients peuvent être confinés au lit à cause de cela. Bien entendu, chez l'homme, la dysautonomie peut aussi se manifester par des troubles érectiles qui peuvent être gênants, en particulier chez les sujets les plus jeunes. La deuxième atteinte d'organes qu'on note très fréquemment dans les neuropathies amyloïdes familiales est l'atteinte cardiologique, qui va se manifester par une insuffisance cardiaque restrictive et éventuellement par des troubles du rythme et de la conduction. Donc, le patient va présenter une dyspnée, il va présenter des malaises, il va présenter de l'hypotimie, voire des pertes de conscience. Et dans les formes les plus sévères, on notera par exemple des insuffisances cardiaques aiguës avec un œdème aigu du poumon. Troisièmement, il peut exister une atteinte rénale. Alors bien sûr, l'atteinte rénale est rarement très symptomatique. Elle se manifeste par une glomérulopathie qui va entraîner une protéinurie qui peut être importante. Quand la protéinurie est importante, elle va participer aux éléments de dénutrition et elle va aussi entraîner des modifications de la volémie qui vont donc avoir des conséquences à la fois sur l'atteinte cardiologique et sur l'hypotension orthostatique. Par ailleurs, dans toutes les atteintes rénales, on peut avoir des carences en vitamine D. D'autant plus que ces patients peuvent avoir un handicap moteur et sensitif important qui va limiter leur déplacement à l'extérieur et donc leur exposition au soleil. Dernière atteinte d'organes fréquente dans cette pathologie, c'est l'atteinte oculaire qui va se manifester soit par des kératites avec conjonctivite, par des dépôts vitréens, par un glaucome secondaire ou par une angiopathie vitréenne. Voilà les principales atteintes d'organes qu'on peut observer chez ces patients.
Alors on voit que ce sont des atteintes multiples. Comment dépister précocement ces atteintes et comment surveiller ces patients ?
Alors pour le dépistage et la surveillance de ces patients, ça va être extrêmement dépendant en fait du moment de la pathologie. En effet, pour certains patients, on va faire des dépistages présymptomatiques. Donc ces patients ne présenteront aucun symptôme. Ce qu'on propose dans ce cas-là, c'est de réaliser un bilan complet avec, bien entendu, un interrogatoire précis, un examen clinique neurologique, cardiologique et ophtalmologique, là aussi précis, un électroneuromyogramme, un bilan cardiologique qui comprendra assez souvent une échocardiographie, un électrocardiogramme et éventuellement une scintigraphie au technétium, scintigraphie qui va permettre de dépister les atteintes cardiologiques de façon très précoce. On propose aussi une protéinurie des 24 heures et donc un examen ophtalmologique. Ce bilan sera réalisé de façon régulière. Plus le patient est jeune, plus il sera espacé. En général, quand le patient atteint l'âge d'une dizaine d'années avant les premières manifestations chez les autres membres de sa famille, par exemple, pour un patient qui a 50 ans, quand les autres membres de la famille ont présenté des premières manifestations à 60 ans, on propose de réaliser ce dépistage de façon annuelle. À partir du moment où le patient commence à devenir symptomatique, à ce moment-là, on propose ce type de bilan de façon beaucoup plus rapprochée, d'abord annuelle et puis généralement tous les 6 mois. Après, bien entendu, la surveillance va s'adapter en fonction des atteintes d'organes du patient et va devenir de plus en plus fréquente au fur et à mesure que la pathologie peut s'aggraver, en particulier s'il n'y a pas de traitement spécifique mis en place.
Et docteur Solé, comment les différentes atteintes que vous venez de décrire modifient-elles la prise en charge ?
Alors, on est face à une maladie qui est une maladie pour laquelle la recherche médicale est extrêmement active. Donc cela a des avantages et cela a des inconvénients, puisque l'avantage, c'est bien entendu qu'on a de nouvelles thérapies qui sont disponibles pour ces patients, et ça, c'est extrêmement intéressant. L'inconvénient, c'est que pour l'instant, la place de ces différentes thérapies, les unes à côté des autres ou les unes en synergie avec les autres, est assez mal connue. Jusqu'à présent, la prise en charge de ces patients reposait essentiellement sur la transplantation hépatique. Et quand il y avait une atteinte cardiologique et surtout une atteinte néphrologique, on pouvait proposer une double, voire dans de très rares cas, une triple transplantation qui va aller associer une transplantation hépatique avec une transplantation rénale et voire une transplantation cardiaque dans de rares cas. Plus récemment, dans les formes les plus précoces de la pathologie, quand les patients sont post-symptomatiques, on peut utiliser des traitements qui vont stabiliser le tétramère de transthyrétine et permettre de limiter l'aggravation de ces patients. Enfin, nous avons actuellement à disposition de nouveaux traitements qui vont agir comme des interrupteurs au niveau de la production de la transthyrétine par le foie. Il s'agit d'ARN interférents.
Alors maintenant, docteur Solé, si on s'intéresse plus particulièrement à l'atteinte cardiaque chez ces patients, quels sont les signes cardiologiques les plus fréquemment rencontrés ?
Alors, tout l'objectif du suivi de ces patients, c'est justement d'éviter qu'ils aient le moins de signes cardiologiques possibles. Alors, les principaux signes que l'on va observer, ça va être la dyspnée, éventuellement les œdèmes des membres inférieurs, et puis dans les formes les plus sévères, les signes de dysfonction cardiaque aiguë, avec en particulier l'œdème aigu du poumon. L'autre type de signes qu'il faut absolument rechercher, ce sont les signes qui vont nous faire évoquer des troubles du rythme ou de la conduction. Donc là, on va être plutôt sur des signes de type malaise, l'hypotimie, palpitations, etc. Là aussi, comme je le disais plus tôt, l'objectif du suivi, c'est vraiment de dépister de façon pré-symptomatique l'ensemble de ces signes afin d'adapter le traitement au mieux. Une des caractéristiques qui est importante quand même à connaître dans les cardiopathies amyloïdes est le fait qu'elles s'aggravent avec les bêta-bloquants. En effet, les bêta-bloquants sont un traitement assez classique des cardiopathies et des insuffisances cardiaques. Et dans cette pathologie, ils vont entraîner une diminution du débit cardiaque et donc des signes d'insuffisance cardiaque aiguë.
Alors, on vient de voir ensemble, docteur Solé, l'ensemble des organes qui peuvent être touchés chez les patients atteints d'amylose héréditaire à transthyrétine. Dans ce contexte, comment coordonner la prise en charge de ces patients ?
Comme on l'a vu avant, il s'agit d'une pathologie qui est multisystémique. Et donc, il est nécessaire absolument d'associer les différents spécialistes d'organes. Il faut associer les spécialistes d'organes, ceux du CHU, ceux qui vont faire la prise en charge des patients au plus près de leur domicile et aussi le médecin traitant. Ce que nous avons développé, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire qui associe donc les neurologues du CHU, les neurologues de ville ou les neurologues d'hôpitaux généraux qui vont assurer la prise en charge au quotidien des patients, les cardiologues, bien entendu, les néphrologues, les ophtalmologues, les médecins de rééducation fonctionnelle qui, là aussi, sont des acteurs majeurs de la prise en charge de ces patients, les imageurs, avec bien sûr l'IRM cardiaque, et enfin les généticiens, puisqu'il est absolument nécessaire de faire un dépistage familial dans cette pathologie. Cette réunion de concertation pluridisciplinaire se réunit environ tous les 2 mois et permet d'adapter au mieux les traitements et le suivi de ces patients au long cours.
Eh bien, merci mille fois, docteur Solé, de nous avoir éclairé sur les conséquences de l'amylose héréditaire à transthyrétine. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.